En coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Les états modifiés de conscience. Voilà un sujet qui suscite l'interrogation et l'intérêt des scientifiques, des philosophes, des juristes, mais aussi des sociologues. On parle d'état modifié de conscience dans certains cas de coma, lors d'hallucinations, d'hypnose ou de méditation. On parle aussi d'état modifié de conscience lors d'expériences de mort imminente, une théorie encore loin d'être validée sur le plan scientifique. La conscience et ses états modifiés, c'était le thème du colloque organisé par l'association Être Humain en mars 2012 à l'Institut de France. Canal Academy vous retransmet la majorité des interventions en deux parties. Retrouvez ici, dans ce second volet, Pierre Buzère, neurobiologiste, membre de l'Académie des sciences. Il nous explique comment les sciences abordent-elles certains états modifiés de conscience. Pour suivre au mieux l'intervention de Pierre Buzère, nous vous invitons à télécharger le support visuel de sa communication sur notre site canalacademy.com. Retrouvez dans un second temps la conclusion de François Gros, co-organisateur du colloque, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences. Mais on démarre sans plus tarder avec la communication de Pierre Buzère.
Il est question de parler des états modifiés de conscience, comme vous allez le voir. Et je voudrais avant tout dire que le problème est une suite très intéressante conférence de mon confrère Bachelard. Il a vraiment posé le problème très général, situé le problème très général. Or, moi, au contraire, je vais arriver un peu avec des gros sabots sur le problème vraiment de la conscience. Quand on parle de conscience, il faut d'abord se méfier en français, puisque, vous le savez sans doute, dans notre langue, la conscience veut dire deux choses, la conscience psychologique et la conscience morale. Dans les langues qui nous entourent, l'anglais dit consciousness pour la conscience psychologique et conscience pour la conscience morale, donc il n'y a pas d'hésitation, d'ambiguïté. Et en allemand, c'est Bewusstsein pour la conscience psychologique et Gewissen pour la conscience morale. Autrement dit, nous sommes dans une situation assez difficile quand nous discutons de conscience point. Or, ce dont je parle et vais parler, c'est uniquement de la conscience psychologique. Je ne considère absolument pas le problème de la conscience morale. Non qu'il ne soit pas important, mais ce n'est pas mon problème. Lorsque je parlais de la conscience, il fallait d'abord faire attention à certains problèmes, certaines difficultés. En particulier, la conscience, il faut faire une différence qui est très importante entre la conscience et la vigilance, et nous allons le voir tout à l'heure. Ce sont deux termes qui souvent se confondent. Et ce que je vais vous dire sera justement un petit peu axé sur cette différence. D'autre part, le problème est que la conscience est une entité en quelque sorte, une instance qui présente des modifications. Et nous n'allons pas, et je ne vais pas vous parler de la conscience. Nous avons décidé au bureau qu'il serait question uniquement des états modifiés. Je n'allais pas vous parler ici et maintenant de la définition de la conscience. Mais je vais tout de même vous en dire un mot. Parce que le problème, nous adoptons ici en quelque sorte l'idée de l'existence de la conscience. Or, quand on a comme origine, qui est la mienne, origine biologique, à l'origine, tout au moins au début, maintenant il y a eu une évolution évidente, mais l'évolution a été aussi dans le siècle, et non pas seulement dans ma personne, dans le siècle. Au début, j'ai rencontré, dans les années 50, en début de carrière, j'ai rencontré toute une série de collègues pour lesquels le terme même de conscience était à ne pas utiliser. Et pour eux, c'était en général une position matérialiste, extrêmement arrêtée, et il n'était pas question de parler de ce qui se passait à l'intérieur de l'esprit, en quelque sorte. Et je me souviens de présentations, dans les années 50, 52, etc. Je présentais dans une association de physiologistes un petit exposé sur le comportement du chat, qui était mon sujet, et à ce moment-là, je parlais du mouvement volontaire du chat. Or, je me suis fait presque jeté à la porte de l'amphi d'avoir parlé de mouvement volontaire, d'avoir osé parler du mouvement volontaire du chat. Autrement dit, il y a une évolution extraordinaire entre cette période des années 50 et maintenant. Il y a vraiment une évolution des idées, et derrière l'évolution des idées, il y a vraiment une acceptation d'une entité nouvelle, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on considère que même chez l'animal, et bien entendu a fortiori chez l'homme, nous avons droit de nous préoccuper de phénomènes qui constituent l'esprit, ça existe, et dans cet esprit, nous ménageons précisément la conscience comme un élément de base et un élément central d'action et de réflexion. Voici un schéma. Simplement, je voulais vous montrer un certain nombre de points importants qui me paraissent importants. Alors la conscience, la voilà. La conscience, et voici l'inconscient. Je ne détaille pas, bien entendu, puisque ça me prendrait tout mon temps. Conscience et inconscient, et vous avez deux entités dont j'ai déjà parlé. Tout ça, c'est l'esprit, bien sûr. Et puis l'esprit est autour de l'esprit. Et vous avez d'autre part le système de vigilance. Le système de vigilance est un système qui est bien connu par son anatomie. Nous savons que c'est une structure, un ensemble de structures qui se trouve très profond dans le tronc cérébral et qui assure l'équilibre veille-sommeil, en quelque sorte. Et également avec l'hypothalamus, enfin, j'insiste pas. Donc, nous avons un passage du sommeil à la veille. Ceci est le système de vigilance. D'autre part, nous avons la conscience. Et ensuite, nous avons tout ce qui se passe tout autour. Pour le système de vigilance, ce système de vigilance peut être sollicité, et il l'est en permanence, par les, à moins qu'il y ait une, ce qu'on appelle une déafférentation, une déactivation sensorielle, nous avons une stimulation sensorielle. D'autre part, des stimulus sensoriels vont également activer le système conscient-inconscient. Bien. Ensuite, la formation réticulée, c'est-à-dire le système de veille-sommeil, le système de veille va stimuler la conscience et maintenir la conscience en action, en quelque sorte. Nous avons d'autre part l'attention, qui est une fonction très importante, la mémoire qui en est une autre, le niveau d'émotion, le niveau émotionnel, ce sont des fonctions différentes. On peut les mettre en quelque sorte autrement, mais je privilégie cette formation en parallèle, des actions en parallèle. Donc nous avons les stimulations périphériques qui nous maintiennent vigiles et qui mettent l'aide de notre conscience, et ensuite l'attention qui joue un rôle essentiel. Vous m'écoutez ou vous ne m'écoutez pas, la mémoire, et etc. Le niveau de vigilance, le voilà, qui est réglé par le système de maintien de la vigilance. Alors il y a un point important, il y a cette flèche noire, qui est importante aussi, puisqu'elle entend que le système, il y a une liaison très étroite, il y en a une ici déjà, mais une liaison très étroite, en quelque sorte négative, entre le sommeil, l'état hypnique, l'état de sommeil, et l'état de conscience, en ce sens que l'état de sommeil supprime en quelque sorte la conscience, ce que j'ai exprimé par un moi. Et tout ce joli monde, bien entendu, interfère et intervient. Simplement, le point qui ne relie pas, en général, n'est pas accepté par tout le monde, c'est effectivement la dualité vigilance-conscience. Cette dualité vient, justement, il y aura suffisamment de confusion tout à l'heure, vous allez le voir aussi, c'est que très souvent, quand on parle des états modifiés de conscience, on aborde d'abord, et surtout, cliniquement en particulier, des états de perte de vigilance. Et, par un second état, cette flèche noire, justement, perte de conscience. Mais on parle de perte de conscience, en réalité, souvent, ce sont des pertes de vigilance. Mais il faut garder la dualité. C'est la complexité de la chose. Maintenant, je vais passer en revue, un petit peu, d'une manière un peu, peut-être, scolaire, un certain nombre de modifications des niveaux de conscience qui sont aussi des niveaux de vigilance. Là, nous avons précisément le sommeil, la perte du niveau de vigilance, la perte de la vigilance avec le sommeil. Et en dehors du sommeil, vous avez comme état pathologique ou subpathologique les divers cas de narcolepsie, ou plutôt la narcolepsie, c'est-à-dire la chute brutale en sommeil. Je simplifie, bien entendu, je ne parle pas clinique. La chute brutale en sommeil, qui peut être accompagnée d'abord de cataplexie, c'est-à-dire d'une perte de tonus, qui peut être accompagnée d'hallucinations, et également aussi vous pouvez avoir des pertes brèves au réveil, oui, qui sont effectivement le somnambulisme qui n'existe surtout chez l'enfant, chez l'ado, chez l'adolescent ou l'enfant, et puis d'autre part les cauchemars. Voilà le premier aspect de ce qu'on pourrait appeler un état de modification d'état de conscience, puisque quand on dort, la conscience en principe disparaît. Alors le problème qu'on ne va pas discuter maintenant est de savoir dans quelle mesure l'inconscient subsiste pendant le sommeil. Ben, ça c'est un problème que je ne vais pas aborder. Le deuxième point, c'est le contrôle attentionnel. Alors on voit des troubles, on constate des troubles de l'attention, des troubles de la conscience sous l'effet des troubles de l'attention. Dans la schizophrénie, on peut, ça n'est pas obligatoire, dans la maladie de Parkinson et dans un syndrome qui est beaucoup plus connu, beaucoup d'entre nous, c'est le syndrome des enfants qui sont à la fois hyperactifs et non attentifs. Trouble de déficit de l'attention et hyperactivité, TDAH, qui sont assez connus et dont on discute de l'étiologie, mais enfin ça c'est une autre affaire. Je continue en simplement, c'est pas la peine que j'insiste, sur les différents modalités de changement d'attention, c'est-à-dire que l'attention, on peut être fixé ou au contraire, elle a des difficultés à fixer l'attention, difficultés à se désengager, difficultés à partager l'attention et ainsi de suite. Donc un deuxième exemple. Le troisième exemple est le cas de la mémoire. Ça correspond chaque fois à une des cases que je vous ai présenté tout à l'heure sur l'image. Cette fois-ci, il s'agit de la mémoire. Et la mémoire, on décrit classiquement, vous le savez, des amnésies antérogrades, c'est-à-dire qu'on ne se souvient pas de ce qui s'est passé à partir d'un certain moment où, par exemple, il y a eu un choc qui a déclenché l'amnésie. À partir de ce moment-là, la mémoire ne fonctionne plus. C'est l'amnésie antérograde. L'amnésie rétrograde, c'est au contraire les souvenirs lointains ou proches, enfin les souvenirs qui disparaissent ou qui ne reviennent. Puis il y a évidemment le syndrome de Korsakoff qui est un abaissement, une perte complète de mémoire qui est liée à une pathologie liée souvent au moins à l'alcoolisme. Il y a la maladie d'Alzheimer dont je n'ai pas besoin de parler davantage. Et il y a aussi quelquefois des mémoires implicites. Oui, le problème qui est âgé, c'est l'anesthésie générale. C'est un problème intéressant qui a été posé à propos de l'anesthésie générale. Est-ce que le malade en anesthésie, qui est au bloc, peut entendre et garder et conserver en mémoire, malgré son anesthésie, certains propos ou certains d'une conversation qu'il a entendue devant laquelle il était? Et est-ce qu'il s'en souvient malgré tout? Est-ce qu'il l'a enregistré? Alors un certain nombre d'études ont été faites qui sont intéressantes et qui ont montré que moyennant, si on interroge le patient 8 ou 15 jours après, bien entendu, si on lui pose simplement la question, ça ne marche pas. Mais si on utilise des tests beaucoup plus fins ou éventuellement l'hypnose, on peut lui montrer qu'il a gardé malgré tout une empreinte inconsciente de ce qu'il a entendu. Je passe de la mémoire à des pertes rapides de conscience qui peuvent intéresser en particulier ces deux, tout au moins l'une des deux, les juristes et tous ceux qui s'intéressent au comportement instantané de l'humain. Nous avons d'abord les commotions cérébrales qui sont en général dues à des traumatismes, à des chocs, qui sont des chocs brefs et qui ne subsistent pas très longtemps. Il y a d'autre part les syncopes. Alors ces syncopes ne sont pas liées à en général à des chocs, ou moins des chocs traumatiques, ça peut être des chocs émotionnels, possible, mais ces syncopes, ou sans cause évidente, sont ce qu'on appelle aussi les crises vagales, c'est-à-dire des mises en jeu du parasympathique, du système parasympathique, en particulier du noyau, en particulier du nerf vague, qui sont, parce qu'avec le système sympathique, rien n'est jamais simple. Il y a une modification du diamètre vasculaire, une baisse du rythme cardiaque, c'est-à-dire une bradycardie, plus souvent une modification de la circulation qui est très nette, qui peut être soit une vasodilatation, vasoconstriction, ça dépend tout à fait parce que, comme je disais, rien n'est jamais simple avec le nerf vague. Toujours est-il que très souvent, on a une perte de conscience qui ne dure pas très longtemps, une perte de conscience, mais on dira facilement une perte de vigilance pendant un certain temps, qui peut être bref. Donc ce sont ces syncopes. Et le troisième exemple, cette fois-ci nous entrons dans la pathologie. Dans la pathologie, il s'agit des épilepsies. Il existe, comme vous savez, bien entendu d'une façon extrêmement schématique, il existe, je m'excuse auprès des cliniciens qui peuvent être ici, il existe trois types d'épilepsie, globalement parlant. Il existe l'épilepsie grand mal, qui est une épilepsie de perte de tonus plus clonie, c'est-à-dire plus contraction, mouvement répété, plus, ça c'est le grand mal, et qui est accompagné d'une perte de vigilance, d'une perte de conscience, qui peut durer quelques minutes. Le petit mal, qui est en général, il n'y a pas de chute du malade, le malade ne tombe pas, il ne perd donc pas sa posture. Il a d'autre part, il perd complètement conscience. Il donne l'apparence de la vigilance, c'est déjà un point important, mais il est incapable de répondre, il ne comprend pas ce qu'on lui dit, tout au moins, il ne réagit pas à ce qu'on lui dit, et il ne parle pas. C'est le petit mal, et là nous touchons vraiment à la vigilance, ce n'est pas véritablement, maximalement en jeu, mais au contraire, cette fois-ci, c'est la conscience, c'est-à-dire toute l'activité mentale, action, etc. Quant à la troisième classe d'épilepsie, les épilepsies focales, eh bien, ces épilepsies sont très variables du point de vue symptomatologique. Elles sont très variables en ce sens que, quelquefois, les malades ont des crises, c'est-à-dire focales en ce sens que ce sont des foyers dans le cerveau qui sont la cause de ces crises, et non pas l'ensemble du cerveau, l'ensemble du cortex et du sous-cortex, mais une certaine partie du cortex. Et dans ces conditions, le malade ou bien garde sa conscience, ou bien la perd. C'est très variable. Donc nous avons là des exemples de changements qui sont donc à noter et intéressants. Je passe à autre chose. Cette fois-ci, je passe aux hallucinations. Cette fois, nous sommes véritablement dans le domaine d'un malade qui est vigile, mais qui a des modifications, des actions, des modifications de son niveau de conscience et surtout de son état de conscience. Alors ces hallucinations, ça consiste à, comme vous le savez, à avoir une perception, l'action de percevoir sans objet de perception. C'est-à-dire, vous voyez quelque chose qui n'existe pas. À ne pas confondre avec l'illusion, qui est, je vois quelque chose, mais je vois autre chose. C'est-à-dire, vous ne percevez pas exactement la forme de l'objet, ou l'objet, vous le déformez. Et troisièmement, l'hallucinose, vous avez une hallucination, mais vous êtes conscient que c'est une hallucination. Parce que l'halluciné, normalement, n'est pas conscient que c'est une hallucination. Dans un syndrome particulier, un syndrome oculaire, on peut avoir des hallucinations et savoir que ce sont des hallucinations. On appelle ça des hallucinoses. Alors d'autre part, je ne vais pas donner la liste interminable des occasions, des causes ou des situations dans lesquelles apparaissent les hallucinations. Il y a bien entendu les drogues, c'est un chapitre énorme, la schizophrénie, quelquefois chez les parkinsoniens aussi, et dans d'autres cas, le sommeil, en particulier j'ai signalé dans la narcolepsie, je l'ai signalé tout à l'heure. Alors on parle aussi, ça c'est moins grave, des hallucinations hypnopompiques et des hallucinations de perte du sommeil, de moment du sommeil, je ne peux pas lire, vous le savez, je le sais aussi, mais je l'ai oublié. Ce sont les hallucinations au moment de l'endormissement et les hallucinations hypnagogiques, voilà. Hallucinations hypnagogiques au moment de l'endormissement et des hallucinations hypnopompiques au moment du réveil. Et je continue un instant sur les hallucinations. Oui, on distingue soit les hallucinations qui sont psychosensorielles, c'est-à-dire qui, celles dont je viens de parler un peu tout à l'heure, c'est-à-dire des hallucinations, vous voyez quelque chose qui vous paraît venir par un système sensoriel. Vous entendez du bruit, vous voyez un objet, ça vient par l'œil ou ça vient par l'oreille, selon les cas. Ou des hallucinations gustatives, etc. Ou bien alors, vous avez des hallucinations psychiques plus complexes, qui sont des véritables paysages ou des voix. Vous entendez des voix. Alors ça, c'est plus compliqué. Et bon, c'est en soi un chapitre, un grand chapitre qui pourrait d'étude que ces hallucinations psychiques, psychogènes. Et nous arrivons au coma. Alors le coma est une... Bien entendu, je n'ai pas besoin de le définir, mais les comas sont des situations de perte de conscience et perte de... Quelquefois, pas tout de suite de vigilance. C'est extrêmement compliqué. On ne peut pas définir simplement. Il y a des modifications diverses et des niveaux divers. Il y a ce qu'on appelle l'état végétatif. En fait, il faut dire que quand on a étudié le coma, il y a eu un point important dans l'histoire des comas. C'est un point d'expérimentation animale. C'est un groupe américain, Magoon, auquel j'ai travaillé aussi, qui a mis en évidence une zone de la région mésencéphalique, c'est-à-dire du tronc cérébral profond, cette zone qu'on appelait la zone réticulée, la formation réticulée, et on a montré que chez le chat, chez le singe, la destruction bilatérale, bien sûr, de ces structures, destruction en général électrolytique, enfin on fait, entraîne le coma irréversible chez ces animaux. D'où l'idée que tout coma était d'origine simplement tegmentale ou tout au moins réticulaire. En fait, en clinique humaine, les choses sont infiniment plus compliquées. Certes, il existe, on connaît, des cas anatomopathologiques où il y a eu coma après destruction du tegmentum. Mais il existe de nombreux cas où, premièrement, on n'a pas de raison de penser au tegmentum, mais on a des raisons de penser à des lésions assez larges, assez variées, assez diverses dans le cerveau. Et on est conduit à définir les comas végétatifs profonds, comas végétatifs persistants en quelque sorte. Ce sont des états où le sujet n'est en principe pas conscient et d'autre part, soit respire spontanément, soit ne respire pas. Alors selon le cas, il pourrait être il sera obligé d'être sous respiration artificielle, soit on le laisse respirer spontanément. Ça dépend tout à fait de son état. Et ces états peuvent persister très longtemps. Et les soins, le traitement actuel, les traitements ont beaucoup évolué, en ce sens que l'éthique, en quelque sorte, impose ou recommande de continuer, de persister à entretenir, à maintenir aussi longtemps que possible les comateux. Parce qu'on ne peut jamais dire jamais. Et en quelque sorte, sauf évidemment quand on a un coma irréversible qui peut être cliniquement décelé. Il existe des comas, de nombreux cas de comas dans lesquels, même après longtemps, il a pu y avoir une récupération. Alors, le point intéressant de ces récupérations de coma, c'est ce qu'on a appelé la NDE, les Américains ont appelé ça NDE, Near Death Experience, qui a été traduite en français par quelques collègues, de EMI, expérience de la mort imminente. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette nomenclature, mais c'est un détail, parce que near death veut dire proche de la mort, mais ce n'est pas nécessairement la mort imminente. Enfin, ça, c'est un détail. Ce qui n'est pas un détail, c'est que ce soit NDE ou EMI, il s'agit de phénomènes d'hallucination, que le malade a des expériences extrêmement complexes, de vision, d'éclairement, d'éblouissement, et ainsi de suite. Et je pense que dans cette salle, il y a au moins une personne qui pourra nous en parler beaucoup plus précisément. Je n'insiste pas sur ce problème. Je voulais aussi dire que, à côté des vrais comas, il existe, faut pas l'oublier, les faux comas, qui sont d'abord le locked-in syndrome, le syndrome de, appelé en français, je ne peux pas lire, mais vous pouvez le lire. Je l'ai noté hier soir et j'ai déjà oublié. Mais enfin, locked-in syndrome, j'avais trouvé la traduction française. Voilà, merci. Et d'autre part, nous avons le mutisme akinétique qui est probablement lié à des lésions frontales, tandis que le locked-in est lié à des modifications, des troubles, des déficits au niveau de l'artère basilaire. Voilà pour les comas. Je vais au moins vous parler de l'autisme. C'est un sujet délicat et difficile. Je n'en parlerai pas longtemps, mais je vais vous demander à quoi correspond ce curieux dessin. C'est toute une histoire avec l'autisme. Inutile de définir l'autisme, sinon que ça se passe surtout chez des enfants qui ont un comportement extrêmement rentré, en quelque sorte. J'utilise des termes non médicaux, très rentrés et qui sont très introvertis en quelque sorte et qui semblent ne pas s'intéresser aux, même à leurs proches. Bien, alors l'origine d'une explication de l'autisme est que les sujets, les enfants, ne savent pas deviner en quelque sorte, n'ont pas le sens que nous avons de comme l'autre. Ils raisonnent toujours, vous allez voir, je vais m'expliquer. Ils n'ont pas ce qu'on appelle une théorie de l'esprit. L'invention de cette théorie de l'esprit ne vient pas de l'expérimentation humaine, mais de l'expérimentation sur des chimpanzés. J'en ai parlé dans la conférence, la dernière que j'ai faite ici aussi, il y a environ 3 mois ou 2 mois. J'ai parlé des bonobos, des chimpanzés. On a pu montrer que chez le bonobo est le seul animal connu qui sache deviner, quand les bonobos sont en réunion, si je puis dire, ou avec un opérateur, ils ont des jeux, des choses comme ça, et seul le bonobo sait deviner ce que l'autre va faire. Enfin, quelque chose. C'est pas de la télépathie, attention. C'est simplement en fonction des conditions de ce qu'il a vu avant. Le bonobo a une théorie de l'esprit de l'autre. Or, aucun animal, jusqu'à présent, n'a été montré, sauf lui, sauf le chimpanzé, ayant une théorie de l'esprit. Eh bien, l'hypothèse qu'on a faite que l'enfant autiste est un enfant qui n'a pas justement cette théorie de l'esprit de l'autre. Ça a été, bien entendu, contredit, contrarié, attaqué, etc. Ça, comme toujours. Mais enfin, je vous montre tout de même l'image. La vraie image n'est pas celle-là. Elle est plus compliquée, moins jolie, plus jolie. Ça, c'est la mienne, je l'ai faite moi-même. Elle n'est pas jolie, mais enfin, elle montre l'idée. En haut à gauche, vous avez deux petites filles. Elles s'appellent Sally et Anne. Sally a un panier et Anne a une boîte. À gauche, Sally a pris une balle qu'elle avait et elle l'a mise dans son panier. Puis elle s'en va. Anne reste seule. Et Anne en profite pour piquer la balle qui se trouve dans le panier et la mettre dans sa boîte. Jusqu'ici, rien de difficile. Et ça, c'est sous la vision du gamin, enfin de l'enfant, que l'on veut tester, pour lequel on veut évidemment tester ou rechercher ou diagnostiquer un autisme. Et alors, dans la quatrième image, Sally rentre et cherche, ou alors la question qu'on pose à l'enfant qui regarde, c'est-à-dire nous pour l'instant, dans quel récipient Sally va-t-elle chercher sa balle ? Un enfant normal à partir de 3 ans dira, ben, il ira la chercher dans le panier, puisqu'elle l'avait mis dans le panier. L'enfant autiste dira, sans doute-t-il, dira que Sally ira la chercher dans la boîte. Parce que l'enfant ne sait pas se mettre à la place de Sally. Il se met à sa place à lui-même. C'est tout. Voilà donc cette histoire assez distrayante, mais triste aussi, qui semble être un diagnostic. Je ne dis pas, bien entendu, une thérapeutique. C'est simplement un diagnostic de l'autisme qui semble accepté, au moins dans les pays anglo-saxons. Je ne sais pas trop ce qu'il en est en France. Je passe à la suite. Il y a tout un ensemble de troubles de l'identité et des personnalités multiples. L'histoire commence avec Pierre Janet, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça date de la période de la fin du 19e. Mieux de personnalités multiples, Pierre Janet avait, qui s'occupait beaucoup d'hypnose et de problèmes de ce genre, Pierre Janet avait décelé justement une personne qui était 4 personnes différentes, Julie 1, Julie 2, Julie 3, Julie 4. Et Julie 4 apparemment s'appelait Adrienne. Enfin, c'est une histoire très très compliquée, écrite par Janet. Et ensuite, on a des syndromes actuels, qui s'appellent, que j'ai marqué, divers syndromes actuels. On trouve effectivement des personnalités multiples, en particulier chez les anciens, je vais parler en détail, bien sûr, chez les anciens combattants au Vietnam, aux États-Unis, il y a eu des groupes comme ça qui se sont formés, et ce sont des manifestations de groupes. Il se trouve une autre personnalité, c'est très complexe. Et alors au-dessus, j'ai mis syndrome de Capgras et de Fregoli, ce sont des syndromes ultra rares, évidemment. Mais enfin, dans le syndrome de Capgras, en gros, le personnage, quand il voit quelqu'un, il dit quelqu'un qu'il connaît, c'est pas lui mais son sosie. Et dans le syndrome de Fregoli, c'est au contraire de voir des gens toujours déguisés, enfin de croire que les gens sont déguisés. Ce sont des syndromes assez rares mais qui montrent ces difficultés, notamment ces problèmes des personnalités multiples et des délires d'identité. Je continue un petit peu. Il y a les états d'hypnose dont je ne parlerai pas et je crois que je terminerai à peu près. L'hypnose, évidemment, nous avons, pour l'hypnose, nous avons d'abord l'hypnose. Dans l'hypnose, il y a plusieurs chapitres. C'est un problème extrêmement complexe et extrêmement fascinant quand on veut l'étudier en détail. Il y a d'abord l'induction hypnotique. L'induction hypnotique, évidemment, ce sont les problèmes de posture, modification de la posture, qui sont très importants dans la modification des états mentaux. C'est une de mes idées. Les postures d'hypnose sont décubitus dorsal et fixation oculaire, c'est-à-dire la fascination. Ensuite, je crois que je parle de l'hypnose animale, il me semble, oui, l'hypnose animale. L'hypnose animale, c'est donc, ce n'est pas de l'hypnose, mais c'est simplement le fait d'utiliser les mêmes procédés, en particulier l'immobilisation. On arrive à immobiliser beaucoup d'animaux en les mettant en particulier sur le dos. Il y a eu des expériences, des lapins, des choses comme ça, mais il n'y a qu'à regarder dans la tente des brebis, il suffit de voir ça. Vraiment, les moutons sont sur le dos, en général, et ça les immobilise. Et ainsi que vous avez tous vu des westerns où on marque les taureaux ou les jeunes, on les met plus ou moins sur le dos pour les immobiliser. Ce sont des choses classiques. Et alors on tombe, c'est le plus intéressant, mais je n'en parlerai pas évidemment, c'est les états d'hypnose qui sont après avoir placé le sujet dans une certaine position, une certaine posture, dans l'hypnose classique, il y a à ce moment-là une bascule de la conscience et un changement des états de conscience. Ce n'est certainement pas du sommeil, le tout est, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ce que je précise à la fin, c'est que maintenant, dans les pratiques récentes, on a abandonné un peu ce rituel de posture, etc. Et on arrive à les traitements, enfin la méthode de Milton Erickson, la méthode américaine, qui est une méthode beaucoup plus, paraît-il, simple, qui n'a pas toute cette grand-messe avec elle. Enfin, ce sera ma dernière dia. Oui, c'est tout un énorme chapitre dont je ne parlerai pas. Ce sont des états modifiés de conscience qui sont liés souvent à la méditation et à des postures et en même temps des états de méditation. Nous avons j'ai marqué le training autogène de Schultz, qui est une sorte d'auto-hypnose, si je puis dire. Enfin, ça exigerait toute une explication. Et deuxièmement, alors, un chapitre que j'ouvre pour le fermer immédiatement, ce sont l'ensemble des pratiques de méditation, en particulier orientales, et pas seulement orientales, je dis bien, parce que mon hypothèse, c'est que les postures qui représentent beaucoup de rites religieux, les rites religieux impliquent très fréquemment, la plupart du temps d'ailleurs, des postures qui, à mon avis, ont une influence sur l'état de, induisent la méditation en quelque sorte et produisent un changement du niveau de conscience. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Ce n'est ni une conférence suivie, c'est simplement une sorte de catalogue. C'est un peu ce que nous avions décidé que je ferais et c'est ce que j'ai fait, mais je n'ai pas voulu aborder le problème de la conscience, de l'existence de la conscience. J'ai simplement dit au début que la difficulté était évidemment que tout le monde n'acceptait pas même l'idée de conscience. Maintenant, c'est accepté. Et en particulier, même chez l'animal, on admet l'existence d'une conscience qu'on appelle primaire et qui, chez nous, alors, est autre chose. C'est ce qu'on appelle la métaconscience ou la self-conscience, en un terme bien français. C'est-à-dire la conscience de soi-même. Et c'est-à-dire que nous sommes conscients d'être conscients. Et souvent, il y a une quantité de confusion dans la littérature, des temps de confusion entre, on dit la conscience, sans préciser. Chez l'homme, il peut y avoir aussi une conscience primaire. Nous ne sommes pas tout le temps en train de nous observer nous-mêmes. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Eh bien, je vais, mesdames et messieurs, tenter de dégager quelques mots de conclusion. N'attendez pas d'un biologiste moléculaire qui joue avec les gènes et les constructions moléculaires dans l'espace de vous donner là un aperçu, disons, suffisamment construit du problème que nous sommes en train d'aborder. Mais je voudrais commencer par une question, ou plutôt par une sorte d'assertion. C'est-à-dire, y a-t-il en effet un exercice plus complexe pour l'être humain que d'expliquer comment fonctionne son propre cerveau? Sinon, bien sûr, les manifestations de son cerveau. Comment adopter une attitude objective dans l'explication de notre propre état mental? Question d'ailleurs que mon maître Jacques Monod s'était posée sous un autre angle en disant que le cerveau humain ne pourra jamais s'expliquer complètement parce que, en fait, pour des raisons qu'il considérait comme étant d'ordre thermodynamique, c'est-à-dire un système complexe ne peut pas s'expliquer lui-même s'il n'y a pas un autre système doué d'une sorte d'énergie, telle qu'il y a évidemment une diminution d'entropie qui lui permet d'aborder le système à expliquer. Donc la question en effet concerne la liberté de notre activité mentale, de notre pensée. D'abord, notre pensée est-elle aussi libre que nous le pensons? N'est-elle pas tributaire de nos émotions et même plus simplement des choix des mots qui en sont le véhicule? En effet, chaque mot devenant à son tour générateur d'une idée qui surgit généralement à notre insu. Notre pensée, que nous croyons représenter l'expression la plus fidèle de notre moi, est très souvent, et c'est un lieu commun, prisonnière de l'imprégnation éducative, socioculturelle et bien sûr morale que nous subissons. Et vous avez remarqué qu'on a fait assez peu allusion à la conscience morale, contrairement à ce que nous dit le dictionnaire Larousse, mais nous aurons l'occasion évidemment de revenir bien sûr sur ce point. C'est pourquoi nous espérons cerner en quelque sorte un peu mieux le mode de fonctionnement de la conscience par une approche indirecte, c'est-à-dire par rapport aux manifestations de l'esprit et du comportement qui se situent en phase, en quelque sorte, à la frange de l'état de conscience, de ce que nous croyons être, au fond, une conscience type, une conscience normale, une conscience de référence, si toutefois ce genre de choses existe. Un petit peu à la façon dont les biologistes tentent d'expliquer comment agissent les gènes, à travers, évidemment, les conséquences relatives aux mutations de ces gènes. Si nous n'avions pas, en effet, ne disposions pas d'altération dans les activités de ces gènes qui sont responsables, justement, de changements physiologiques ou de changements peut-être plus ponctuels, il nous serait très difficile, évidemment, d'établir une génétique et de remonter même jusqu'aux gènes, voire même de les connaître. Donc, là, nous avons besoin d'une sorte de démarche en quelque sorte, j'allais dire centripète, c'est-à-dire il nous faut, à partir de toutes les observations que nous pouvons faire sur les états liminaires de la conscience, essayer de cerner peu à peu ce qu'est la conscience de l'homme. Et Dieu sait si c'est quelque chose de complexe. Et ça, c'est le biologiste moléculaire ou le cellulaire qui parle lorsque l'on sait qu'il y a 100 000 milliards de combinaisons synaptiques dans notre cerveau et peut-être encore davantage. Et qu'il faut que nous arrivions précisément à essayer de corréler ces activités synaptiques avec la pensée elle-même. Certains, comme par exemple Jerry Edelman, qui fut un grand neurobiologiste, mais qui bizarrement reçut le prix Nobel pour ses travaux en immunologie, pensait que tout était une question de sélection naturelle. Il pensait qu'en fait, notre cerveau émettait des sortes d'ondes, évidemment je schématise beaucoup, débouchant sur toute une multitude d'idées et qu'en fait, il y avait un processus de tamisage de plus en plus étroit qui arrivait justement à focaliser à la fois sur une idée et sur un mot. Alors, j'insiste beaucoup sur la relation entre l'idée et la parole, l'idée et le mot, et parce que, précisément, nous aurons l'occasion d'y revenir, nous n'avons pas beaucoup parlé ici de ce phénomène, c'est-à-dire pourquoi parlons-nous ? Pourquoi est-ce que l'homme parle et pourquoi est-ce que les animaux, en dehors des perroquets, mais les perroquets ne parlent pas vraiment, ils imitent. Bon, pourquoi est-ce que les animaux ne parlent pas? Alors, c'est quelque chose qui va nous appeler justement à faire des études comparatives entre ce qu'on peut appeler des états pseudo-conscients chez l'animal et chez l'homme, en tenant compte bien sûr du degré d'évolution de l'animal. Et en tentant d'ailleurs dans cette approche de ne pas confondre conscience et intelligence, et je reviens à ce que vous avez dit, madame, entre conscience et intentionnalité. Justement, c'est dans l'intentionnalité du cerveau qu'on peut justement établir des catégorisations dans l'évolution, disons, de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence, entre guillemets, chez l'animal. Et je sais que là-dessus, Pierre Buzère est intarissable si vous parlez du comportement des bonobos. Donc, je crois que nous avons eu, mesdames et messieurs, et je n'y suis pour rien, croyez-le bien, un éclairage tout à fait riche, remarquable, sur les états modifiés de conscience. Bien sûr, on n'a pas éclusé toutes les phénoménologies qui s'y rapportent, nous n'avons pas répondu à toutes vos attentes, mais il reste donc beaucoup à faire, ce qui nous donnera, je l'espère, l'immense plaisir de vous retrouver.
Ainsi se termine le colloque sur les états modifiés de conscience qui avait lieu en mars 2012 à l'Institut de France, colloque organisé par l'association Être Humain. Retrouvez sur notre site la première partie de ce colloque en compagnie de Bérénice Tournafond, présidente de l'association, et Jean Béchler, philosophe et sociologue, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, pour une approche rationnelle de l'étrange. Et pour connaître les dates des prochains colloques organisés par l'association Être Humain, une seule adresse internet, www.hommecontemporaintoutattaché.org. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.